9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. On va donc commencer par faire l'histoire de cet acte tout simple qui consiste à déposer un bulletin de vote dans une urne. Ça ne s'est pas fait en un jour, comme on va le voir tout de suite avec Alain Garrigou, qui est un véritable historien du droit de vote. Je recevrai ensuite Frédéric Klette, qui est physicien solaire, pour parler du soleil. On croit qu'il brille là-haut, mais en réalité, il est tout autour de chacun d'entre nous. Puis ce sera le tour de la comédienne Elsa Gedge et du producteur Laurent Rochette pour un film très particulier qui sort mercredi en salle et qui s'intitule Année 20. Il a été tourné en une seule prise. C'est un long travelling d'une heure et demie dans Paris avec 25 acteurs sans jamais couper la caméra. Et enfin, présidentiel oblige, il n'y a pas le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk. À la place, on va passer une heure avec Marie-Dominique Lelièvre qui consacre une biographie à Françoise Hardy, une femme beaucoup plus révolutionnaire qu'on ne le croit, Françoise Hardy, vous allez voir.
Europe 1.
Bonjour Alain Garrigou.
Bonjour.
Vous avez été longtemps professeur de sciences politiques à l'université. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire du droit de vote, que ce soit Les secrets de l'isoloir, L'histoire sociale du suffrage universel en France ou Le vote et la vertu, comment les Français sont devenus des électeurs. C'est vrai que ce geste simple par lequel on choisit celui ou celle qui nous représente, c'est le résultat d'une très longue élaboration.
Absolument. Il a fallu apprendre. Et c'était pas si simple. Un voyageur suisse, par exemple, qui en 1789 arrive d'Angleterre pour voir ce qui va se passer à Paris, tombe à Montreuil-sur-Mer, sur des discussions entre des gens qui savent pas comment faire. Et c'est lui qui a été initié, en quelque sorte, en Grande-Bretagne, qui leur apprend comment il faut faire. Ils sont tout heureux. Et après, ils découvrent dans le journaux qu'à Montreuil-sur-Mer, ils ont été particulièrement performants.
Oui, c'est ça. Mais on va voir, même à Montreuil-sur-Mer, ils n'avaient pas tout inventé dès le début. Alors, je rappelle que voter en France est un droit. Ça n'est pas un devoir. Sinon, le vote serait obligatoire.
Oui. Il y a eu de longues discussions, il n'y en a plus vraiment sur ce sujet. Il faut savoir néanmoins qu'au XIXe siècle, alors qu'on n'était pas sûr d'avoir convaincu les électeurs de voter, il y avait des leçons de morale, c'est-à-dire on faisait comprendre aux gens que c'était un devoir moral. Mais il n'y a jamais eu d'obligation en France, contrairement à d'autres pays voisins comme la Belgique. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'exceptions d'ailleurs. Dans l'ensemble, c'est un geste libre et donc problématique, puisque quand on est libre, on peut ne pas le faire.
Au départ, pendant la Révolution française, le suffrage est censitaire, uniquement masculin. Il faut avoir 25 ans, payer l'impôt. Et puis, c'est un suffrage indirect, donc on élit des électeurs qui, eux, doivent disposer de revenus plus élevés encore. C'est eux seulement qui élisent les députés.
Oui, avec une petite réserve, c'est que la Constitution de l'an 2 prévoit le suffrage universel, mais ça ne sera jamais appliqué. Le problème, c'est pas seulement une question de droit sur lequel on peut comprendre, c'est-à-dire qu'on attend d'électeurs, par exemple, qui savent lire et écrire, ce qui n'est pas évident au moment de la Révolution française. C'est donc aussi un problème technique, c'est qu'on ne sait pas très bien faire, et notamment on a des inquiétudes pour réunir des millions de gens ensemble.
Et le problème aussi, c'est que le vote est secret, mais rien n'est prévu pour le garantir. Alors effectivement, pour quelqu'un qui ne saurait pas lire ou écrire, c'était un problème. Mais à cette époque-là, en plus, l'électeur remet son bulletin plié au président du bureau qui le rentre dans l'urne, ce qui pose pas mal de problèmes.
Au départ, la précision du secret, c'est un décret de 1820. Ça s'adressait aux électeurs censitaires, qui étaient quelques dizaines de milliers, qui étaient des gens fortunés et suffisamment instruits pour qu'on ne doute pas de leur capacité à émettre un vote. D'autant plus, ce vote, il ne faut jamais oublier, était manuscrit. Pendant longtemps, même au début du XXe siècle, ça a été un bulletin manuscrit, c'était une sorte de preuve de sa capacité à voter.
Je crois que l'un des problèmes, alors peut-être justement parce qu'il fallait manuscrire le nom de la personne pour qui l'on votait, beaucoup d'électeurs à l'époque écrivaient sur leur bulletin leur nom, ils signaient, ils s'expliquaient, ce qui rendait leur vote nul.
Oui, c'est le paradoxe, mais c'est aussi le paradoxe aujourd'hui. Si on veut voter blanc et qu'on mette sur le bulletin « je vote blanc
»,
et ça se produit de temps en temps. Alors on a moins d'excuses aujourd'hui qu'hier. Mais il y a des ambiguïtés, effectivement, ce qui montrait que ce n'était pas évident de se confier simplement sur un bout de papier. Certains expliquaient leur vote. Alors, on ne va pas dire qu'ils n'étaient pas compétents. Ils étaient, au contraire, certainement compétents politiques, puisqu'ils avaient des idées, mais ils étaient incompétents électoralement, puisqu'ils ne comprenaient pas le droit électoral, qu'il faut le dire, était en gestation.
Ce n'est qu'en 1913 qu'arrive l'enveloppe, l'isoloir et le dépôt dans l'urne par l'électeur lui-même. Pourquoi ça a mis si longtemps ?
Ben parce qu'on ne faisait pas suffisamment confiance aux électeurs, d'une part. Il y a un certain nombre de députés ou de sénateurs qui disent « Oh, demain, ça va être une catastrophe parce que il y a des électeurs qui ne vont pas savoir mettre un bulletin dans l'urne. » Alors, ça prenait des arguments qui nous font rigoler, mais qui étaient des arguments, il faut quand même le dire, assez méprisants socialement, puisque certains parlaient des agriculteurs avaient leurs doigts grossis par le travail, comme s'ils n'étaient pas capables, si vous voulez, de glisser un bulletin d'allure. C'était donc, pour beaucoup de gens, dans un monde où la politique était largement dominée par ce qu'on appelle des notables, c'était un moyen de contrôler la régularité et on se méfiait toujours un peu des électeurs, il faut quand même le dire. Donc c'est tardivement qu'en France, les obstacles ont été balayés, mais parce qu'il avait été, ailleurs. C'est en Australie, dans l'état de Victoria, que devant des troubles à l'ordre électoral, dans un pays qui était un pays pionnier, où la violence était très facile, il a fallu trouver ce système, alors seulement de l'isoloir, pour éviter les bagarres les jours de vote. C'est passé en Angleterre après, en 1872, puis en Belgique en 1876. Mais la France a adopté une double précaution, l'isoloir et l'enveloppe.
On fait une pause, Alain Garrigou, vous allez nous raconter la suite juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Alain Garrigou, qui est un historien, je l'ai dit, du droit de vote. Vous comprenez pourquoi je l'ai invité aujourd'hui, évidemment. Alors, en 1815, c'est la Restauration, le suffrage censitaire. Cette fois-ci, il ne faut plus avoir 25 ans, mais 30 ans pour avoir le droit de vote. Et ceux qui sont les plus riches peuvent voter deux fois. C'est extraordinaire, ça.
Oui, il y a une loi du double vote, c'est-à-dire qu'on peut voter un échelon et au département, il y a seul des plus riches qui peuvent voter. C'est au moment où se décide le vote secret, d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'est institué le vote secret. Bon, on comprend bien qu'après la Restauration, c'est après la Révolution, donc on se méfie des... Et l'idée du suffrage censitaire, le sens, c'est un impôt minimum. C'est l'idée que pour voter, il faut avoir des choses à défendre. Et la principale chose, c'est la propriété, bien évidemment.
Alors en 1848, c'est la Deuxième République. Le suffrage devient un suffrage universel direct. Les femmes ne votent toujours pas, mais tous les hommes votent à partir de 21 ans. C'est une sacrée révolution, là, parce que même la Révolution française n'avait pas fait ça.
D'ailleurs, ça va presque étonner les initiateurs de cette révolution que de réussir à faire voter des millions, c'est-à-dire 8 millions, plus de 8 millions le 23 avril 1848, au chef-lieu de canton, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres pour y aller, il pleut, c'est le dimanche de Pâques, et beaucoup d'électeurs en garderont mauvais souvenir à cet égard. Mais c'est un tour de force qui est lié à la Révolution, c'est-à-dire dans les rues de Paris, il y a pendant ces 3 jours de Révolution des gens en armes, etc., pour les calmer. Eh bien, Lamartine et surtout Le Druy-Rollin confient à un juriste qui s'appelle Louis de Cormenin le soin d'arranger une formule qui permette à tout le monde de voter, c'est-à-dire à les hommes, bien évidemment, malgré Georges Sand qui était proche de Le Druy-Rollin et qui n'a pas eu le droit de vote elle-même. Ça a contrarié un certain nombre de femmes de la bonne société, parce que les domestiques pouvaient voter, mais pas elles, leur patronne. Il y avait une forte population de domestiques au XIXe siècle, il faut quand même...
Bien sûr, et il n'y avait pas que des bonnes de sexe féminin, il y avait
aussi
des domestiques.
Voilà, on l'oublie un peu aujourd'hui. Les historiens sont un peu dans leur bulle, vous voyez, ils oublient certaines choses, mais il y avait 3 millions de domestiques à peu près, hommes et femmes. Pour que le palefrenier puisse aller voter et pas celle qui transporte dans le carrosse ou de la voiture. C'est quand même étonnant, quoi. Donc, certains l'ont très mal pris.
En 1872, le droit de vote est refusé aux militaires. Alors, sous le Directoire, il y a eu une période où, pour pouvoir voter, il fallait avoir été soldat, il fallait avoir fait une campagne militaire. Mais là, c'est le contraire. On ne veut plus que les militaires votent et c'est seulement en 1945 qu'ils auront le droit de voter. Le général de Gaulle, par exemple, n'a jamais voté avant d'être lui-même au pouvoir.
Oui, encore un paradoxe. Bon, ça s'explique très bien parce que c'est avec la République. Il ne faut jamais oublier que le coup d'État de Louis Bonaparte en 1851, c'est un coup d'État militaire. Que dans le référendum, le plébiscite, pardon, de ratification du coup d'État, les casernes ont voté un peu avant, avec des scores qu'on fleuve évidemment en faveur du coup d'État. Et donc, les militaires votaient sous les ordres quasiment de leurs officiers jusqu'à la Troisième République, qui n'a pas encore ce nom, enfin jusqu'à à la fin de l'Empire. Et évidemment, les Républicains pouvaient difficilement ne pas réagir, pas se méfier du vote des militaires, d'autant plus qu'une bonne partie de l'encadrement, c'est-à-dire des officiers et sous-officiers, étaient bonapartistes.
Donc le général de Gaulle qui vient de se voir accorder le droit de vote, enfin, oui. Accorder lui-même, l'accorde également,
l'accorde,
aux femmes, 50 ans donc après les Néo-Zélandaises. Pourquoi si tard en France ?
Eh bien, il faut dire que la France a raté le coche en 1918, alors que bien des pays ont accordé le droit de vote aux femmes après la Première Guerre mondiale, parce que les femmes avaient suppléé les hommes dans les usines, dans les champs, et qu'il paraissait parfaitement anormal qu'elle n'ait pas le droit de vote. Alors pourquoi en France il y a plusieurs raisons qui se sont conjuguées. Il y a une raison, c'est en 1920, la chambre Bleu Horizon, c'est une chambre très conservatrice, donc très méfiante, mais qui a été paradoxalement rejointe par des élus de gauche, parce qu'eux, ils avaient peur que les femmes écoutent trop facilement le curé, et que le curé était classé à droite, évidemment. Alors, le problème, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas complètement tort, parce qu'en 1885, les Républicains avaient échappé belle, hein, à peu de choses près. En 1885, une majorité conservatrice anti-républicaine aurait pu prendre le pouvoir. Donc, on peut en discuter. Et puis, il y a une troisième raison. Eh bien, c'est les arcanes du régime d'Assemblée qui fait qu'on se renvoie un peu la pomme de terre chaude et que notamment on renvoie au Sénat le soin de refuser le suffrage féminin. C'est-à-dire que la Chambre des députés l'accorde, mais on renvoie en deuxième lecture au Sénat. Et au Sénat, il y a des gens qui sont des sénateurs, donc élus indirectement, qui sont beaucoup plus affranchis du suffrage universel, qui sont plus vieux, plus traditionnalistes, et qui, eux, endossent en quelque sorte la responsabilité du rejet du suffrage universel. Ce qui ne va pas être possible, évidemment, en 1945. Il faut savoir, par exemple, la Turquie, il est vrai, de Kemal Atatürk, a accordé le suffrage féminin en 1920.
Oui, oui. Alors, en 1974, le président Giscard d'Estaing abaisse l'âge du droit de vote à 18 ans. Alors, on se rappelle, c'était 25 ans sous la Révolution, 30 ans à la Restauration, 21 ans en 1848. Et il faudra attendre 1974 pour que ce soit 18 ans.
Oui, ça, c'est un coup d'audace assez rare en politique, parce qu'on se doute que la première préoccupation des élus, c'est de se faire réélire. C'est une citation classique que je me permets là. Et donc, a priori, le vote des jeunes n'était pas favorable à celui qui en a été l'initiateur, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. À cette époque-là, il y a déjà les sondages, et on sait que les jeunes entre 18 et 21 ans sont plutôt orientés à gauche. Donc là, on a un président qui prend des risques, qui parie sur l'avenir. Mais il est vrai que c'était difficile aussi de continuer à repousser, un petit peu comme le suffrage universel auparavant. Il ne faut jamais oublier qu'il y avait mai 68 et la révélation d'une classe d'âge qui n'était pas plus haute. Il y avait aussi l'ouverture des universités. Donc refuser à des jeunes qui généralement étaient plus diplômés que leurs parents, déjà, de leur refuser le droit de vote. Ça a été un pari courageux, je dois dire, d'un président qui a peut-être eu l'occasion de le regretter en 1981.
Et voilà donc comment nous en sommes arrivés à aujourd'hui, second tour de l'élection présidentielle. Merci Alain Garrigou.
Je vous en prie, merci à vous.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec Frédéric Klett. On va parler du soleil.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Frédéric Klett.
Bonjour.
Vous êtes physicien solaire à l'Observatoire Royal de Belgique et vous publiez « Le soleil et nous » chez Favre, un titre tout indiqué, hein, « Le soleil et nous », car sans le soleil, à la fois si proche et si loin, nous ne serions pas là. Mercure est plus proche, elle est aride. Vénus est plus loin, aucune vie n'y est possible.
Et oui, donc Vénus est plus proche que la Terre, mais c'est aussi un enfer et c'est Mars qui est trop loin et qui est... un désert gelé. Donc là, nous sommes sur la bonne planète.
Nous sommes exactement au bon endroit. La lumière du soleil met 8 minutes pour parvenir jusqu'à nous, ce qui signifie que lorsque nous regardons le soleil, nous le voyons tel qu'il était il y a 8 minutes, en fait.
Exactement. Mais en fait, comme rien ne se transmet plus vite que la vitesse de la lumière, on peut dire qu'on le voit en instantané. Surtout à l'échelle des distances de l'univers, on est véritablement collé contre le soleil, même si pour nous, les millions de kilomètres nous paraissent une distance considérable.
C'est l'idée qu'on est collé contre le soleil qui m'a frappé en lisant votre livre, Frédéric Klett. Vous expliquez que nous vivons au cœur de l'atmosphère solaire. Nous n'en sommes pas conscients, mais nous tous, à cet instant, nous sommes enveloppés, dites-vous, par le souffle de particules de soleil. Il n'est pas là-haut, il n'est pas au loin, il est tout autour de nous, le soleil.
Exactement. La chose que nous percevons avec nos sens, c'est évidemment la lumière, la chaleur, qui évidemment inonde la partie éclairée de la Terre, hein, là où il fait jour. Mais en même temps, le soleil émet un flot de particules continues, ce qu'on appelle du joli nom de vent solaire. Et ce vent solaire, en fait, baigne l'ensemble du système solaire et va jusque au-delà des planètes les plus lointaines, Pluton et tout ça, sont encore à l'intérieur de cette sorte de bulle que souffle le Soleil tout autour de lui. Et en fait, ce n'est qu'il y a quelques années que les sondes voyageurs qui ont été lancées il y a plusieurs décennies pour explorer Jupiter et Saturne, après des décennies de voyages, sont arrivés à 170 fois la distance Terre-Soleil, donc bien plus loin que la distance qui nous sépare du Soleil. Et seulement maintenant, là, il y a quelques années, elles ont commencé à sentir une autre matière, donc le milieu interstellaire dans lequel le Soleil creuse sa bulle. Et nous sommes à l'intérieur.
C'est une étoile qui nous veut du bien, dites-vous. Au fond, nos ancêtres lui vouaient un véritable culte, et nous aussi à notre manière, puisque l'envie d'aller se promener nous prend dès que le soleil brille. Hein.
Effectivement, je pense que depuis le début de l'humanité, les hommes ont ressenti, par la chaleur bienfaisante pendant la journée, etc., que le soleil était un objet à la fois favorable et même, je pense qu'il y a eu l'intuition que, en quelque sorte, la vie elle-même ne devait son existence que grâce à cet objet. D'où la place centrale qu'il a occupée dans beaucoup de cultes et mythes du passé. Et sans avoir de connaissances scientifiques, en fait, les hommes avaient déjà très fort approché cette réalité qu'on connaît maintenant scientifiquement, c'est qu'effectivement, le soleil est vraiment un objet central qui contrôle notre milieu de vie maintenant et aussi qu'il a rendu propice à la vie depuis des milliards d'années.
La quantité d'énergie solaire disponible dépasse largement nos besoins, dites-vous, 6000 fois la consommation totale d'énergie à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui nous empêche de l'utiliser? Parce que un millième suffirait.
Effectivement, un prélèvement même correspondant à tous nos besoins n'est qu'un une toute petite fraction de cette quantité disponible. Donc, si on se met à exploiter l'énergie solaire massivement, il n'y a aucune crainte que, par exemple, on modifie globalement la biosphère terrestre en volant en quelque sorte l'énergie qu'il dispense à notre propre profit. Mais une des caractéristiques de l'énergie solaire, c'est qu'elle est répartie partout. Elle n'est pas concentrée à certains endroits. Donc, ça la rend moins perceptible pour nous. Et en plus, elle se cache sous une multitude de formes. Ça, c'est une chose que j'explique dans mon livre. C'est justement que des formes d'énergie donc permanentes, durables, dont on parle maintenant abondamment et qu'on classe à côté de l'énergie solaire, comme l'hydroélectrique, l'éolien, ce sont en fait d'autres formes de l'énergie solaire. À la source de toutes ces énergies, c'est toujours le soleil.
Et Icare, dans cette histoire, comment vous le voyez-vous, Frédéric Klett, qui connaissait si bien le soleil ?
Eh bien, c'est un mythe ancien, mais dont on devrait s'inspirer exactement à l'époque actuelle. Vraiment, ça concerne le monde tel que nous le connaissons et tel qu'il évolue là depuis 10-20 ans. Le mythe d'Icare, c'est ne vous approchez pas trop du soleil parce que vous allez vous y brûler les ailes. Et le message actuel, c'est le soleil a une activité, produit des éruptions, mais il l'a fait depuis toujours. Mais ce n'est que depuis quelques dizaines d'années avec le développement de l'électricité qui est devenu maintenant encore plus omniprésent. Qu'est-ce qui, dans notre monde, si on y réfléchit, ne s'effondre pas si nous perdons l'électricité?
Je vous arrête, pardon Frédéric Klett, on s'interrompt un instant et puis vous nous raconterez ça juste après parce que c'est très important. Effectivement, c'est le cas des éruptions solaires et des éruptions même extrêmes. On en reparle juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Frédéric Klett, qui est physicien solaire à l'Observatoire Royal de Belgique et qui publie « Le soleil et nous » chez Fabre. Vous étiez en train de nous raconter le mythe d'Icare, mais aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, on filme les éruptions solaires en haute définition. C'est un spectacle assez fascinant. Mais quelle influence ont-elles sur nous exactement? Elles créent des perturbations, hein?
Effectivement, bon, la manifestation la plus ancienne de cette influence sur la Terre, ce sont les aurores boréales, ces belles draperies lumineuses qu'on voit surtout dans les régions polaires. C'était un beau spectacle, mais qui n'avait pas d'impact direct. En revanche, à l'heure actuelle, avec notre technologie qui utilise abondamment des appareils sans fil, les téléphones, donc les télécommunications, les systèmes de navigation ou ce qu'on appelle le GPS, donc qui repose entièrement sur des liaisons radio entre votre petit terminal et une constellation de satellites en orbite autour de la Terre. Et toutes ces émissions radio sont perturbées, brouillées ou faussées par l'influence de ces éruptions solaires, ce qui peut créer des blackouts de communication ou, par exemple, dans les systèmes de navigation, une perte de précision. Là où on attend quelques mètres de précision, on peut avoir tout à coup des erreurs de plusieurs centaines de mètres pour une grosse éruption solaire. Et alors que jadis le GPS était utilisé seulement dans certaines applications plutôt personnelles, maintenant c'est présent dans toute une série de systèmes, notamment dans la navigation aérienne, etc. Donc il y a vraiment des enjeux de sécurité liés à ça. Et donc, en quelque sorte, en développant cette technologie, nous avons également créé notre propre vulnérabilité aux éruptions.
Oui, les satellites, les communications radio, les GPS, vous l'avez dit, les téléphones, l'aviation, les radars, tout ça peut être perturbé par les éruptions solaires. Et en cas d'éruption extrême, alors, parce que la dernière, vous le rappelez dans votre livre, a été observée en 1859. Une éruption solaire extrême, ça crée une tempête géomagnétique, en général le lendemain. Mais aujourd'hui, ce serait très différent. En 1859, il n'y avait pas la technologie l'énergie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait un effondrement total.
Exactement. À l'époque, il n'y avait que le télégraphe. Les récepteurs ont pris feu à différents endroits, mais c'était des systèmes rustiques. Et dans notre société actuelle, il y aurait effectivement deux impacts, c'est-à-dire au niveau des technologies, etc., vraiment des pertes de services complets plutôt que simplement des dérèglements. Mais un aspect qui serait dominant dans les conséquences, c'est qu'il y a l'arrivée des bouffées de particules, ce qu'on appelle techniquement en physique solaire les éjections de masse coronale, qui viennent en fait percuter le champ magnétique terrestre, le perturbe complètement, et ces perturbations induisent des systèmes de courant à grande échelle, donc sur des grandes distances, et tout ce qui est conducteur de l'électricité sur des longues distances est alors soumis à des échauffements intenses, et donc des transformateurs peuvent griller, notamment dans les systèmes, donc les réseaux d'électricité à haute tension.
Donc c'est le
blackout. Et donc ça signifie
blackout
une perte
total.
D'électricité. Des cas comme cela se sont déjà produits par le passé, mais c'était des événements locaux, régionaux, plutôt dans les pays nordiques, tandis que dans le cas d'une super éruption, ce serait vraiment un phénomène global. Avec des dommages permanent. Il ne suffirait pas de déconnecter le système en attendant que ça se passe. Il y aurait réellement des dégâts qui eux-mêmes devraient être réparés. Et donc la récupération d'un événement pareil prendrait un temps considérable qui pourrait être de plusieurs mois, etc., pendant laquelle, en fait, l'électricité pourrait être absente. Donc vous imaginez un monde, le monde actuel, tout à coup privé d'électricité, non pas pendant 6 heures, mais pendant des jours, des semaines.
Au fond, vous le rappelez, hein, quelqu'un l'avait imaginé, c'est Barjavel, en 1943, qui écrit un roman d'anticipation qui s'intitule « Ravage ».
Effectivement, j'avais lu ça dans ma jeunesse, et bon, dans le cadre de mon travail, en étudiant justement ces phénomènes et cet impact du soleil sur la Terre, ça m'est revenu à l'esprit et j'ai relu ce livre et ça m'a fasciné le scénario qu'il a pu imaginer, et où même, bien sûr, à l'époque, les notions étaient beaucoup plus limitées, mais il fait une allusion, en tout cas, il reste très vague sur la cause du ravage dont il parle dans son roman, mais il parle du soleil. Et ça, c'est vraiment une intuition, là, j'étais épaté.
Eh bien, merci Frédéric Klett. Le soleil et nous, votre livre vient de paraître chez Favre. Et l'on se retrouve dans un instant avec les membres de l'équipe du film Années 20.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Elsa Gedge, qui est actrice, et Laurent Rochette, qui est producteur, m'ont rejoint dans ce studio. Bonjour tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Le film Années 20 sort mercredi prochain. Il est signé Elisabeth Vogler. Alors, est-ce que c'est un pseudonyme, un collectif? Parce qu'Elisabeth Vogler, c'est un personnage bien connu des cinéphiles dans le film Persona d'Ingmar Bergman. C'est l'actrice interprétée par Liv Ullmann qui s'arrête de parler. Alors, qui est Elisabeth Vogler?
Alors, Elisabeth Vogler, évidemment, est un pseudonyme, mais je pense que je vais laisser Laurent.
Elle préfère pas se mouiller.
On va dire que c'est une personne qui préfère mettre en avant les films plutôt que son image.
Donc, c'est une personne. C'est une personne
et c'est pas un collectif. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ego dans le cinéma et dans cette culture du cinéma d'auteur. Il y a l'auteur qui est souvent très mis en avant. Et je crois que c'est bien parfois que l'auteur se retire.
C'est le producteur qui parle, parce qu'effectivement, en France, le producteur n'a rien à dire. Tout pouvoir, c'est l'auteur.
C'est bien vrai.
Alors, ce film a excité ma curiosité. Je ne suis sans doute pas le seul, parce qu'il s'agit d'une expérience. Hein. C'est un vrai plan-séquence sur 6 km dans Paris, à pied, en métro, à vélo, à scooter, sans jamais couper la caméra. Ça va du Louvre au parc des Buttes-Chaumont. Je dis ça pour les Parisiens, ils peuvent se repérer. Alors, la caméra suit d'abord un garçon et une fille qui se rencontrent, puis deux filles qui parlent, puis deux garçons qui discutent sur le quai de la Seine, puis une fille et un garçon qui descendent dans le métro, puis une fille qui sort du métro, puis une fille qui court en rejoindre une autre d'ailleurs qui est vous, Elsa Gedge. voilà, j'ai bien résumé.
C'est parfait.
Alors, c'est spécial. C'est un film en une seule prise. C'est une prise d'une heure et demie. Il dure, vous l'avez tourné en une journée, au mois de juin, je crois, juste après le confinement, moment où la vie reprend, prenait son cours dans Paris. Et puis, pof, la caméra est partie. Elle s'est arrêtée une heure et demie après. Et c'est ce qu'on voit au cinéma.
Ouais,
enfin, ce qu'on verra à partir de mercredi prochain.
Exactement. C'est un vrai plan séquence. Il n'y a pas eu de coupe. Et c'est plus une expérience qu'un film. Je pense qu'on est assez loin du cinéma traditionnel. C'est vraiment plein d'histoires qu'on va voir. La caméra est une espèce de d'ange invisible comme ça qui se balade dans la ville et qui va nous montrer en fait les existences de plein de personnes. Et c'est la caméra qui les relie en fait. C'est une espèce de déambulation comme ça. Et l'idée, je crois, c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose d'un peu fou et que ça marche. Parce que quand on fait ça, on se remet complètement au hasard, parce qu'on maîtrise absolument rien. Que ce soit le métro, les gens, les voitures, vraiment.
Les feux rouges.
Les feux rouges. On ne sait pas ce qui va se passer. On se dit juste, et si on mettait 40 personnes, on faisait une expérience un peu folle, qu'est-ce que ça ferait ?
Alors, Elsa Gedge, j'imagine que vous n'avez pas découvert le scénario à le dernier instant. J'imagine que vous avez répété. Il y a eu une seule prise, mais il y a eu combien de répétitions avant ?
Oui, alors il y a eu un peu de répétitions. En fait, on avait répété quelques fois chacun notre scène isolée, enfin, pas dans la continuité. Donc, on avait eu quelques rendez-vous pour répéter ma scène, en ce qui me concerne, dans le décor et en dehors du décor. Enfin bref, on avait fait quelques répétitions, mais pas beaucoup non plus. Et en fait, le film entier a été répété de façon fragmentaire avec genre plein de morceaux. Mais en entier, on a fait une répétition générale.
Seulement.
Et ensuite, on a tourné 6 prises qui ont été les 6 soirs d'une semaine.
Et vous avez choisi la meilleure.
Six. Hein.
Ouais,
et on a choisi la meilleure.
Ouais. Et alors vous attendiez votre tour. J'imagine qu'il y avait un assistant qui est venu vous prévenir. Attention, ils arrivent.
Parce exactement.
Qu'il faut rentrer dans le film.
Exactement. En fait, on se réunissait tous pour se préparer, etc., dans un lieu avant que le tournage commence. Et puis on se dispatchait chacun à notre point de rendez-vous du film. Et selon, les premiers acteurs étaient équipés de HF et puis il y avait des régisseurs son, des ingénieurs de son qui venaient équiper les acteurs suivants comme un relais.
Ah oui, parce il faut dire aux auditeurs que le HF, en général, c'est ce qu'il y a de plus cher hein, sur un tournage.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ce qu'il y a de plus cher. Et puis, il y a le nombre d'ondes limité. Paris, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de réseaux. Et donc, on ne peut pas avoir 24 HF. Donc,
on ne peut pas avoir autant de micros qu'on voudrait.
Exactement.
Alors, le long plan séquence, c'est un peu le graal du cinéma depuis longtemps. Hein, du temps où Alfred Hitchcock réalisait La Corde, célèbre film fait de 3 plan séquence, c'était en studio et ça nécessitait d'installer des rails de travelling, des décors escamotables. Aujourd'hui, les caméras ont rétréci, sont devenues légères. C'est pour ça que on peut faire un film comme celui-là.
Ouais, ça arrivait vraiment. L'un des premiers vrais plans séquences, c'était un film qui s'appelle Time, je crois. C'est grâce aux caméras numériques parce que les caméras argentiques ne permettaient pas, parce qu'un magasin caméra ne permet pas de filmer pendant une heure et demie, on va dire. Le chargeur de la caméra ne permet pas ça.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait 3 plans séquences chez Hitchcock. À l'époque, il y avait le problème de la grosse caméra, d'où les rails de travelling et les décors escamotables, c'était en studio. Mais aussi, il y avait le problème de la limitation du temps.
Ouais, et le numérique a vraiment permis de changer ça et de miniaturiser les caméras. Donc on a vu aussi, surtout le film de Victoria, un film allemand tourné à Berlin en une seule prise, un film très impressionnant qui nous a vraiment inspiré aussi sur celui-là. Et la miniaturisation de la caméra qui arrive de plus en plus fort, on va dire, ça permet vraiment d'avoir une caméra toute petite. Et là, personne ne voit vraiment la caméra débarquer dans la ville. On a une toute petite caméra, une équipe qui est très invisible et on essaie juste de capturer la vie et de montrer ce qui peut se passer un soir d'été dans Paris.
Il y a un autre célèbre plan séquence, c'est au début de La Soif du Mal, un chef-d'œuvre d'Orson Welles. Alors là, c'est un plan séquence basé sur le suspense. Il n'y a pas un mot qui est prononcé. On n'entend que le tic-tac de la bombe qui va exploser dans la voiture. Ce travelling est acrobatique, virtuose même, hein, avec des contre-plongées. Il est précisément minuté. Dans Année 20, j'ai l'impression que ce sont les dialogues qui rythment les séquences, qui rythment le film. Hein. La caméra se tient sagement à hauteur d'homme, un peu comme à la télévision au fond.
Ouais, je crois que, bah, que ça a été très discuté à l'international parce que les gens n'ont pas l'habitude. Le film a fait sa première à Tribeca, au festival de Robert De Niro, où il a gagné des prix. Mais surtout, le truc, c'est qu'ils n'étaient pas habitués de voir avoir des films avec autant de sous-titres. Pour eux, c'est hallucinant. Il y a énormément de sous-titres quand on regarde en anglais, quoi. Je crois que c'est un film beaucoup, beaucoup sur le langage, en fait. Parce qu'il y a plein de
très
langages
français,
différents.
Très français, ça. Hein. Nous, on aime beaucoup les dialogues hein, dans le cinéma français.
C'est une tradition française. Et je crois que la là, l'idée de la caméra, c'est pas d'être le plus virtuose. C'est juste de montrer, je pense, ce que les gens vivent et comment ils parlent, quoi. Il y a pas de... Et puis, au final, il faut se dire aussi qu'il faut assurer la prise. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre, par exemple, d'arrêter trop le tournage dans la rue. Parce que si on arrête le tournage dans la rue, on devient plus vulnérable. Les gens peuvent interrompre le tournage. Les gens sont plus visibles en arrière-plan. L'idée du mouvement permanent, c'est aussi que la caméra ne s'arrête pas et que ça crée un espèce de fil. Et les discussions sont faites en marchant. Et là, je crois qu'on a beaucoup pensé à Linklater, qui faisait beaucoup ça, Richard Linklater, qui fait des gens qui discutent et qui marchent, quoi. Et que c'est un rythme aussi, comme ça, de film.
Zagedge, c'est un peu spécial. Vous parlez toute seule, vous.
Oui. Oui, oui, enfin, à quelqu'un, mais oui, à quelqu'un qui n'existe pas.
Voilà, c'est ça. Vous êtes 24 acteurs en, oui, en tout. Pourquoi l'avez-vous intitulé Année 20 ?
Alors, c'est référence à une des scènes à la fin du film et surtout à une théorie qu'on aimait bien alors qu'on a entendu un peu vaguement comme ça et qu'on aime croire, c'est qu'un siècle commencerait à partir des années 20, en fait. C'est-à-dire que on mettrait plus de après 20 ans pour se remettre du siècle précédent. Le 20e siècle aurait été quand même particulièrement chargé. Et ce serait dans les années 20 que tout se jouerait. On l'a vu après la Première Guerre mondiale avec plein de mouvements artistiques. Et on le voit maintenant avec une accélération des choses quand même depuis 2020 dans tout ce qui s'est passé dans le monde et ce qui se passe actuellement. Donc on est sur un espèce de basculement vers quelque chose et on espère que ça va aller vers quelque chose de positif.
Pourquoi l'avez-vous produit ce film, Laurent Rochette ? A priori, il n'y a pas de vedette. Il y a François Rollin qu'on aperçoit, mais sinon, ils sont tous de jeunes comédiens comme Elsa. Il n'y a pas de vedette. Il n'y a pas particulièrement d'intrigue. Il n'y a pas particulièrement de suspense. Qu'est-ce que vous en espérez ? Qu'est-ce que vous en attendez ?
Alors, je crois qu'en fait, c'est vraiment une volonté de faire un peu bouger les choses dans le cinéma en France, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennuis en fait, dans le cinéma tel qu'il est conçu actuellement en France. Notamment avec le fait que le CNC, donc l'organisme qui finance le cinéma français, qui est un organisme public, je pense délaisse complètement le public jeune en fait, et qu'il y a un manque vraiment total en fait de renouveau dans le cinéma d'auteur en fait, qui est devenu une espèce de le cinéma d'auteur est devenu une espèce d'industrie avec un phénomène de cour, une aristocratie qui a tendance à se refiler beaucoup les aides entre eux en fait, et que ça c'est un système qui nous choque beaucoup en fait en tant que jeunes producteurs.
On s'est rendu compte, c'est vrai, avec le Covid, au fond, tout à coup, quand les cinémas ont rouvert, les films français ont fait très très peu d'entrées parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, c'était les personnes âgées qui vont voir les films français. Les jeunes, eux, vont voir les films américains.
Oui, le cinéma d'auteur français intéresse très peu de monde déjà. C'est vraiment un cinéma qui est beaucoup produit pour être financé et pas beaucoup produit pour être vu. Il y a des très très beaux films qui sont produits dans ce système et on adore. Mais je pense, et on n'est pas le plus seul à penser, qu'il faut refondre complètement le système de financement du cinéma d'auteurs français et qu'il faut faire des états généraux du cinéma et qu'il faut qu'on explose complètement ça parce qu'on est en train de perdre complètement le public jeune qui ne va plus voir des films d'auteurs. Et c'est terrible parce que tout ce que vous avez cité comme film depuis tout à l'heure, que ce soit La Soif du Mal ou Hitchcock, ben, les gens ont eu accès à ça parce qu'ils ont eu cette culture-là, en fait, cette culture du cinéma. Et on est en train de la perdre et c'est quelque chose qu'on trouve terrible. Donc on pense que pour contrebalancer ça, il faut tenter des gestes un peu forts, un peu magiques. Et ce film, c'est un peu une tentative d'un geste un peu magique, d'envoyer la caméra pendant une heure et demie et de faire une expérimentation. Et nous, en tant que jeunes producteurs, on essaye de faire quelque chose d'assez marketing avec ça, entre guillemets, sans aller dans quelque chose de moche dans le sens du mot, mais de vraiment de toucher le public, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et c'est très très parisien, le fait de sortir des films et de dire, regardez, ce public-là, c'est jeune, ils ne s'intéressent pas à ça, ils vont voir que des blockbusters, mais non, c'est faux en fait, c'est juste qu'on ne sait pas présenter les films en fait, et on n'a pas envie d'aller à leur niveau, on les méprise, et ça c'est vraiment une intelligentsia très parisienne qui fait ça, et en fait, qui ne s'adresse qu'à un public de vieux, donc après, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, quoi.
Un dernier mot, Elsa Gedge ?
Non, je suis tout à fait d'accord et je trouve, enfin, on en discutait tout à l'heure, que c'est vrai que c'est assez rare dans le cinéma et dans l'art en général que souvent la théorie, le message précède l'objet. Et là, dans ce film-là, je trouve qu'il y a un truc où l'objet est donné avec plein de choses dedans. Le discours ne précède pas l'objet.
Merci tous les deux d'être venus sur Europe 1. Année 20, ça sort donc mercredi en salle et c'est signé Elisabeth Vogler. On a bien compris, c'est un pseudonyme. Europe 1. C'est arrivé demain n'est pas terminé. Le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk n'ayant pas lieu, présidentielle oblige. L'émission continue jusqu'à 11h. On va célébrer le génie de Françoise Hardy. Je vous retrouve juste après le flash.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jacques Dutronc et Thomas Dutronc sont en tournée dans toute la France depuis le 12 avril et jusqu'à la fin de l'été. Et sur scène, ils rendent hommage à Françoise Hardy. Eh bien, moi aussi, j'ai eu envie de rendre hommage à Françoise Hardy, qui a 78 ans cette année. Je profite donc de cette heure supplémentaire qui m'est accordée. On va écouter quelques-unes de ses plus belles chansons, retrouver des extraits de la longue interview que j'avais faite avec elle sur Europe 1. Et j'ai invité Marie-Dominique Lelièvre. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Publie Françoise Hardy, Étoile distante, aux éditions Flammarion. Un joli titre, je trouve, qui lui convient bien, hein, Étoile distante.
Oui, c'est en fait un titre qui m'a été suggéré par un ami, par Philippe Lançon, vraiment à la fin, quand je cherchais. En lui résumant le livre, il m'a dit, j'ai entendu sortir de sa bouche, Étoile distante, j'ai pas tout de suite compris. Et en fait, c'est un titre d'un roman de Roberto Bolano. Et Françoise Hardy, Étoile distante, c'était vraiment le contenu du livre.
Vous débutez par la description de l'intérieur de sa maison. Tous ceux dont vous avez écrit la biographie, dites-vous, Gainsbourg, Bardot, Saint-Laurent, Coco Chanel, vous avez visité leur maison.
Oui, je crois que c'est vraiment très important. En tout cas, c'est une source, une mine d'informations, parce que la façon dont un être humain habite sa maison, c'est aussi la manière dont il habite sa vie. Et il se trouve que dans le cas de Françoise Hardy, j'étais déjà allée chez elle l'interviewer, donc je connaissais le salon de la maison. C'était la maison familiale, celle de la rue Allée, dans laquelle elle a vécu avec son mari et son fils. Mais évidemment, je n'avais pas visité toute la maison. Et puis la maison, un jour, a été à vendre. Et je l'ai visitée avec une agence immobilière. Et là, évidemment, de fond en comble. Et je savais avant de visiter la maison qu'un jour j'écrirais un livre sur elle, parce qu'elle fait vraiment partie de ma série. Mais quand j'ai visité la maison, j'ai su que j'avais le premier chapitre. Et ça, c'était il y a j'ose même pas dire, 20 ans.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Françoise Hardy est devenue célèbre à 18 ans. Hein. La première fois qu'elle s'est entendue, d'ailleurs, c'était à la radio, c'était sur Europe 1. Elle aurait pu être étudiante à Sciences Po. Elle y était entrée à 16 ans, mais elle avait arrêté au bout de quelques semaines avant de s'inscrire en licence d'allemand à la Sorbonne.
Oui, en fait, c'est quelqu'un de très brillant. Hein. Elle avait ses deux bacs à 16 ans. Et sa mère l'a inscrite à Sciences Po. En fait, à l'époque, quand on avait un bac avec mention, on pouvait s'inscrire directement.
Elle avait une mention bien.
Oui, avec Sciences Po. Et puis, elle s'est sentie vraiment complètement déplacée. Elle venait d'un univers très, très modeste. Elle n'avait pas les codes. Il y avait un des fils de André Malraux. Il y avait tous ces gens du 7e arrondissement, bien sapés et tout. Elle était là avec ses petites chaussures jaunes et son imper bleu. Là. Et elle s'est enfuie assez vite et elle est allée, en effet, faire de l'allemand à la Sorbonne.
J'avais posé la question quand je l'ai reçue sur cette antenne, sur Europe 1, ce qu'elle avait pensé de l'époque des yéyés, puisqu'elle est véritablement une représentante de cette époque-là. On va l'écouter, Françoise Hardy.
Musicalement, comment trouvez-vous rétrospectivement cette époque en France, les yéyés? Est-ce que musicalement c'était intéressant à vos yeux, à vos oreilles plutôt?
C'était intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. C'était intéressant parce que c'était toujours très mélodique, même si c'était des adaptations de chansons ou de rock anglais ou américain, ça restait toujours très mélodique. Et pour moi, une chanson, ça doit d'abord être mélodique. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir retenir, qu'on doit pouvoir fredonner, qu'on doit pouvoir siffloter. Beaucoup moins. Moi j'aurais du mal à siffler une chanson de Vincent Delerme, par exemple. Hein. beaucoup moins, ou alors... Enfin, je trouve qu'il y avait quand même des belles mélodies. Regardez, par exemple, mon amie et concurrente directe de l'époque, Sylvie Vartan, mais le nombre de jolies mélodies qu'elle a chantées, qui étaient, alors, soit originales, par exemple, La plus belle pour aller danser, c'est quand même magnifique, ça. La chanson que chantait Johnny de Charles Aznavour aussi, qui s'appelait Retiens la nuit, c'était magnifique. Mais tout le monde a ça encore en
tous
tête.
Tous les garçons et les filles,
oui, bon, bah,
c'était pas mal aussi.
C'était une mélodie beaucoup moins intéressante, mais c'est vrai que c'était une mélodie très facile. Mais je n'aime pas trop, moi, les mélodies faciles. J'aime les mélodies simples. Mais facile, pour moi, c'est péjoratif.
Ça, c'est typiquement du François Hardy.
Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, elle n'aime pas beaucoup parler de tous les garçons et les filles. À chaque fois que je l'ai rencontrée, j'ai essayé. Mais elle a un mauvais souvenir de cette chanson. D'abord parce que elle n'a pas eu les arrangements qu'elle voulait. Elle était mécontente de l'orchestre qu'elle jugeait un peu ringard. Et puis, il lui est arrivé une seconde mésaventure. C'est qu'elle avait composé elle-même les paroles et la musique. Mais en fait, elle venait de recevoir, enfin, au moment du bac, elle a reçu une guitare avec une petite notice. Elle savait juste jouer quelques accords. Mais elle ne savait pas écrire la musique. Et elle ne pouvait pas donc déclarer sa chanson à la SACEM. Et c'est l'arrangeur, Roger Samin, l'arrangeur de la chanson, qui, si bien qu'elle n'a jamais touché de royalties sur ses chansons.
Elle en a touché la moitié quand même.
Oui, non, pour les paroles. Pour voilà, les paroles. Mais pas pour la musique. Oui, alors qu'en fait, donc il y a de quoi être un peu.
Il s'en vendra plus d'un million et demi d'exemplaires.
Oui. Ça a été sa meilleure vente, donc c'est terrible quand même parce que.
À l'époque, la SACEM n'admettait pas que l'on puisse composer de la musique sans savoir l'écrire. C'était pour le temps le cas d'une bonne partie des jazzmen et des rockers, par la même occasion, qui n'avaient jamais appris une solfège. On va écouter un petit extrait de Tous les garçons et les filles de mon âge. C'est cette chanson-là qu'elle a entendue pour la première fois à la radio sur Europe 1.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime.
Marie-Dominique Lelièvre, vous racontez dans votre livre qu'en un an, Françoise Hardy enregistre 7 45 tours, 2 albums. Elle fait la couverture de Vogue, photographiée par Helmut Newton. Elle tourne dans Château en Suède, réalisé par Roger Vadim. Elle fait l'Olympia pendant 5 semaines et elle investit ses gains dans 2 appartements. Elle n'a pas encore 20 ans. Hein.
Oui, à l'époque, ces vedettes, ces très jeunes vedettes, elles étaient prises en main par leur maison de disques et on les faisait vraiment, c'était vraiment l'abattage, on les faisait vraiment énormément travailler. En plus, elle était en tournée et tout, c'était, elle n'avait pas 20 ans, oui, c'est complètement fou. Sa vie a totalement changé en l'espace de quelques semaines, en fait, parce qu'elle a enregistré, je crois que c'était au... Je me demande même si... Enfin, bref, elle a enregistré Tous les garçons, je ne sais plus très bien... Enfin si, le disque est sorti en mars 62 et elle est devenue déjà une assez grande, même très grande vedette à l'automne 62 parce qu'il y avait eu un référendum. C'est le référendum qui initiait l'élection du président de la République au suffrage universel. Et en guise de petite récréation, les gens attendaient le résultat. On a vu Françoise Hardy est apparue sur les postes de télévision chantant Tous les garçons.
C'était dans un scopitone, hein, comme on appelait à l'époque les clips.
Oui, et en l'espace de... Évidemment, c'était frappant voir une fille... Une fille jeune comme ça, c'était extraordinaire, quoi.
Effectivement, et une fille qui tranchait beaucoup, hein, on va voir pourquoi, parce qu'elle est révolutionnaire pour beaucoup de raisons, Françoise Hardy. Mais encore une chanson, L'amitié, voilà une chanson qu'elle n'a pas écrite, qu'elle n'a pas composée, mais qu'elle aimait beaucoup.
Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse, comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne,
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton poids.
Une chanson qu'elle aime beaucoup, elle me l'a dit quand je l'ai interviewé, Françoise Hardy. Pour elle, voilà, c'était ça. C'est quand elle dit qu'elle n'aime pas les mélodies faciles, mais elle aime les mélodies simples. C'était un bon exemple pour elle. L'amitié, pour elle, c'était formidable.
Oui, c'est une très belle chanson. Et c'est une chanson signée par Jean-Max Rivière pour les paroles et Gérard Bourgeois pour la musique. Et Jean-Max Rivière, il a écrit quelques chansons délicieuses. Et je pense qu'elle lui a demandé une chanson parce qu'il avait écrit pour Brigitte Bardot. Et il a notamment écrit, je ne sais plus comment, le titre, mais c'est Coquillages et crustacés. Bon, enfin, c'est une chanson que tout le monde connaît. Et elle aimait beaucoup ces chansons. Elle aurait bien aimé les chanter, elle aussi. Ce que je trouve, enfin, je me suis toujours demandé au fond pourquoi cette femme qui a une petite voix, enfin pas une voix extraordinaire quand même, pourquoi elle nous a touchés aux gens. En fait, elle touche parce que, certes, elle n'a pas une grande voix, mais elle est investie dans ses chansons. Et elle, en fait, on se retrouve absorbé dans le mini drame qu'elle nous fait vivre, quoi. Il y a quelque chose de, on sent qu'elle vit son truc. Et à chaque fois, on est pris. Par ses textes et ses mélodies.
C'est ce qu'elle a de révolutionnaire d'ailleurs, parce que vous le dites, c'est l'anti-Piaf hein, quand elle apparaît, Françoise Hardy. Piaf, c'est la chanteuse préférée des Français. Elle, avec sa voix un peu à bout de souffle comme ça, elle est l'anti-Piaf.
Ah, complètement, puis même physiquement, sur scène, enfin en tout, oui, elle est vraiment... Piaf, lorsqu'elle chante, je sais pas, on voit ses tripes, quoi. Enfin, elle en ajoute. Il y a presque une voix monocorde en fait chez Françoise Hardy, ce qui est très beau. Et sur scène, c'est extraordinaire parce que sur scène, elle ne bouge pas. Elle est comme un pied de micro. Mais en fait, tous les gens qui l'ont vue, moi je ne l'ai jamais vue sur scène, mais tous les gens qui l'ont vue en ont gardé un souvenir absolument émerveillé parce que il y a une sorte de corrélation entre son attitude intérieure et son langage corporel, quoi. C'est les deux vont ensemble, donc ça donne un sentiment de sincérité absolue. Évidemment, les gens sont médusés.
On fait une pause, on se retrouve juste après Marie-Dominique Levièvre.
C'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Marie-Dominique Levièvre qui publie Françoise Hardy, Étoile distante. On rend hommage à Françoise Hardy qui a 78 ans. Je le disais tout à l'heure, Thomas et Jacques Dutronc sont en tournée. Ils lui rendent hommage tous les soirs sur scène. J'avais envie de lui rendre hommage aussi. Et vous êtes là parce que vous venez de publier sa biographie. On va la retrouver, Françoise Hardy, parlant de la mélancolie. Parce que quand je l'avais interviewée, je lui avais dit « Mais vous n'avez pas marre qu'on vous parle tout le temps de la mélancolie ?»
La mélancolie, c'est un mot qu'on a souvent accolé à votre nom.
Ah oui, oui, puis plus que jamais. Là, il ne se passe pas une seule interview sans qu'on évoque la mélancolie. Bon, c'est vrai.
Vous reconnaissez dans ce mot-là ?
Ah, mais totalement, totalement. Et je pense même que la mélancolie est indissociable de la beauté en musique. Donc pour moi, les plus belles musiques sont fatalement mélancoliques.
Et souvent classiques, non ? C'est souvent les compositeurs classiques, d'ailleurs, qui ont fait les plus belles...
Ah bah oui, moi, de toute façon, je suis une fan des adagios. C'est toujours ce que je préfère dans un concerto.
Mais alors, vous qui avez travaillé sur sa vie, Marie-Dominique Levièvre, d'où lui vient cette mélancolie, d'après vous ? De son père absent, qui était marié, qui ne l'a pas reconnu, de sa mère qui n'était pas facile, qui l'a laissé pleurer longtemps dans son berceau, pour justement lui apprendre à cesser de pleurer ?
Oui, il y a quand même cette histoire complètement extraordinaire. Lorsqu'elle est née, bon, sa mère l'élève toute seule. Sa mère n'a jamais voulu passer une nuit avec un homme. Elle a eu cet enfant qu'elle désirait, mais elle ne désirait pas le père. Elle l'élève donc seule et le premier mois, enfin beaucoup de gens ont eu des bébés, savent ce que c'est un bébé le premier mois, elle l'enferme dans une chambre et elle la laisse pleurer tout le temps, enfin toute la nuit. Évidemment, au bout d'un mois, l'enfant ne pleurait plus. Elle avait compris une bonne fois pour toutes que ça ne sert à rien de crier, il ne se passera rien. Est-ce que ça vient de là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour elle, c'est une histoire très importante puisque... quand elle a écrit ses mémoires, elle commence là-dessus. Après, il y a cette vie très claustrale entre sa mère et sa sœur, dans un petit appartement, dans le 9e arrondissement, le père qui paye difficilement l'école, enfin qui n'est jamais là, qui veut bien que ses filles lui écrivent à condition qu'elles n'inscrivent pas son adresse, enfin leur adresse et leur nom au dos des enveloppes. Enfin, elles sont un peu dans une sorte de backstreet. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient cette mélancolie. Moi, je pense qu'elle est née quasiment mélancolique. Elle a toujours été, en tout cas, toujours.
Et toutes ces chansons en parlent d'une certaine manière.
Ah, oui.
Par exemple, celle-ci que j'adore. En 1971, c'est un des morceaux de cet album que je crois que vous aimez beaucoup. C'est ce que vous dites dans votre livre, Marie-Dominique Lelièvre. Moi aussi, je le trouve assez parfait, cet album qui s'intitule La Question.
Oui, c'est un très très bel album. Je crois que là, au violon, je crois que c'est Catherine Lara
qu'on
a entendu. Oui, c'est vraiment un album très abouti. En fait, le livre tel que je l'ai construit, si vous voulez, j'ai essayé de reconstituer les 10 années de métamorphose de cette très très jeune fille, de cette adolescente qui se transforme en superstar. Donc ça commence en 62 et ça va jusqu'à... Enfin bon. Et en 71, donc là, elle commence à prendre possession de son pouvoir. Elle fait une rencontre extraordinaire avec une artiste brésilienne en exil à Paris qui s'appelle Tuca, qui est vraiment une merveilleuse musicienne. Elle est éblouie par cette fille qu'elle voit en fait chanter dans un restaurant, parce qu'il faut bien qu'elle gagne sa vie.
À l'époque, le Brésil était une dictature militaire.
Voilà, hein,
beaucoup de Brésiliens étaient en France.
Oui, ils avaient été obligés de partir et de gagner leur vie comme ils le pouvaient. Mais bon, elle était très très liée aux gens de la bossa nova. C'était une très grande, déjà dans son pays, une artiste intéressante. Elle chantait dans ce restaurant une chanson magnifique qui s'appelle, je crois que c'est « Même sous la pluie ». Elle la chante elle-même. D'ailleurs, on la trouve sur YouTube et vraiment, c'est quelque chose de délicieux. Alors, elle se rencontre et tout casse. Et il va se passer. Françoise Hardy a quitté sa maison de disques, Vogue, qui avait fait d'elle cette artiste yéyé. Et elle a carte blanche, puisque c'est sa propre production. Elle se choisit le meilleur, à mon sens en tout cas, de tous ses directeurs artistiques. Et ces deux femmes, alors Touka lui écrit les chansons, etc., enfin toutes les mélodies, Françoise Hardy écrit les paroles. Elle répète toutes les deux pendant un mois chez Françoise Hardy qui habitait alors dans l'île Saint-Louis, Touka à la guitare et tout. Donc elles arrivent en studio où Françoise Hardy est complètement préparée. Et là, finalement, elle se lâche comme jamais. Touka lui fait faire des trucs insensés avec sa voix. Il y a des chansons extraordinaires sur cet album. C'est véritablement... c'était de la haute couture, quoi. C'était assez. Alors ça a été un flop, hélas.
Souvent les bons albums. Alors il faut voir le chemin qu'elle a parcouru, hein, Françoise Hardy, puisqu'elle a révolutionné énormément de choses. Alors d'abord, elle a une photogénie exceptionnelle. Sans sa photogénie, dites-vous, elle ne serait pas devenue une star internationale. C'est le photographe Jean-Marie Perrier qui est son premier amoureux, qui lui a appris à s'habiller, à se maquiller, à se coiffer, et aussi bien Richard Avedon, Helmut Newton, William Klein, tous ces grands photographes vont se jeter sur elle.
Oui, alors elle a une chance folle dans sa vie professionnelle en fait. Elle fait ne fait que des bonnes rencontres, professionnellement. Hein. Elle a un premier amoureux, un premier fiancé, qui il se trouve qu'il est photographe et il se trouve qu'elle est photogénique. C'est quand même formidable. Donc, il révèle totalement sa photogénie, la photographie sans arrêt, les autres remarquent sa beauté, etc. Il lui apprend, en effet, à s'habiller, puisque c'est lui qui l'a emmenée chez des grands couturiers. Et elle va directement dans la maison qui était la bonne pour elle, qui est Courrèges. Il y a cette espèce de rencontre entre eux deux, déjà. Il n'est pas seulement son photographe, en fait. Il est son directeur artistique. Il est directeur de l'image, on va dire. Et de même que chez Vogue, elle a rencontré le directeur, le plus,
Jacques Wolfson,
le plus étonnant de l'époque.
Et celui qui avait lancé Johnny et qui lancera Jacques Dutronc ensuite.
Exactement. Donc en fait, elle fait vraiment des bonnes rencontres.
Mais vous insistez beaucoup dans votre livre sur le corps de Françoise Hardy. Ce nouveau corps des années 60, quelle est la première à incarner au fond? Grande, mince, androgyne. Et puis cette chevelure, ses cheveux longs, lisses, avec une frange, elle est la première là aussi.
Oui, quand on montre aujourd'hui à une jeune fille de 12 ans des photos de Françoise Hardy, un album par exemple de Jean-Marie Perrier, la jeune fille, elle est fascinée parce que les photos sont très très belles. Mais quand on lui dit, tu sais, elle était révolutionnaire, évidemment, la jeune fille, elle comprend pas parce qu'aujourd'hui, être grande, mince, avec des cheveux raides, sauf que bon, la femme d'avant, c'est la femme sablier, c'est la femme new look, c'est Brigitte Bardot, c'est Marilyn Monroe, c'est des femmes qui ont des formes, qui ont des hanches. Françoise Hardy, c'est un parfait androgyne, elle a pas de hanches, elle est faite comme un garçon, elle est hyper mince, elle faisait même pas 50 kilos, elle est grande pour son époque, puisqu'elle mesure 1m73, et elle a un goût d'emblée pour le vêtement unisexe, quoi, parce que ce qui était aussi complètement nouveau. Des femmes auparavant, des actrices s'étaient habillées avec des vêtements d'hommes, Greta Garbo ou Marlène Dietrich, mais elles n'avaient pas des corps d'androgyne, tandis qu'elle, elle a le corps en plus qu'il faut. Donc ce corps, et Françoise Hardy, d'ailleurs, elle avait tellement peu le corps de sa jeunesse, de toute jeunesse, je veux dire de son enfance, que à l'école, on se moquait d'elle, elle était mal à l'aise avec ce corps. Et tout à coup, ça devient le corps qu'il faut avoir.
Et pas seulement en France, elle fascine les Anglais, hein, Mick Jagger, Jimmy Page, le futur guitariste de Led Zeppelin, Ray Davis, le leader des Kings, il va y avoir Bob Dylan aussi, qui va être fasciné par Françoise Hardy. On va écouter un extrait de cette chanson, Je n'attends plus personne, par exemple, c'est Jimmy Page, le futur leader de Led Zeppelin, qui joue de la guitare électrique.
Je n'attends plus personne, non, je n'attends plus rien. C'était toi ou personne, c'est toi ou ce n'est rien. Je n'attends plus personne, et toi le sais-tu bien? Oui, toi qui m'abandonnes. C'est très facile, tu poursuis ton chemin, allant de ville en ville, sans jamais avoir besoin de quelqu'un. Je n'attends plus personne.
Moi, quand j'écoute cette chanson, j'imagine Mick Jagger derrière la vitre de l'ingénieur du son, parce qu'il était là, hein, vous le racontez, qui est fasciné par Françoise Hardy.
Oui, il est venu, en effet, il est venu plusieurs fois. C'est d'ailleurs
on est à Londres, hein, en plus, elle enregistre à Londres.
Elle enregistre à Londres au studio Paille et le producteur a relaté qu'en effet, Jagger venait l'observer dans le studio.
Et en plus, il y avait Jimmy Page à la guitare. On fait une pause, on se retrouve juste après.
C'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Et l'on célèbre jusqu'à 11h le génie de Françoise Hardy sur Europe 1. Je profite de la présence de Marie-Démédicte Lelièvre qui publie Françoise Hardy, Étoile distante, une très jolie biographie de Françoise Hardy. Françoise Hardy, auteure, compositrice, interprète. Elle était l'une des seules chez les Yéyés. Edgar Morin, dans son célèbre article sur les Yéyés, d'ailleurs, c'est lui qui a créé le mot, hein, je le rappelle, la met à la première place. Vous le citez dans votre livre, Marie-Dominique, et notamment une chanson, on va en écouter tout de suite un extrait, comme tant d'autres, parce que pour Edgar Morin, c'était la preuve du talent de Françoise Hardy.
«
Pourquoi serais-je la fille de rêve, la fille que tu crois? Celle qui, lorsque le jour s'achève, entre seule chez soi. C'est tant pis pour toi, ce n'est pas ma faute. Je ne suis que ça, une fille comme tant d'autres. Pourquoi serais-je la fille de rêve qui n'a qu'un seul amour? Je sais trop que la vie est brève et j'en ai fait le tour. C'est tant pis pour toi, ça n'est pas ma faute. Je ne suis que ça, une fille comme tant d'autres.
Je sais que la vie est brève et j'en ai fait le tour. Il fallait l'écrire, ça, à 18-19 ans.
Oui, là, elle est peut-être un peu forte.
Mais c'est ce que citait Edgar Morin dans son article.
Oui, mais en fait, c'était drôle parce que Morin, l'article de Morin est remarquable. Hein. C'est incroyable, de préscience. Il a vraiment bien analysé les choses. Il a vraiment tout compris avant tout le monde. Mais en fait, il avait fait ça après la Nuit de la Nation, mais en fait, sans remarquer que Françoise Hardy n'y a pas participé.
On ne l'imagine pas, il faut dire. C'était un événement considérable avec une foule terrible. Oui, non, il y a eu des bagarres. Ce n'était pas du tout pour Françoise Hardy, qui renoncera à la scène assez vite, d'ailleurs, parce qu'elle ne s'y est jamais sentie à l'aise. Elle est très subtile dans ses paroles, hein, Françoise Hardy. On voit avec des mots simples, là aussi. Mais il n'y a jamais de rime facile et c'est toujours précis.
Oui, c'est magnifique parce que c'est minimaliste en fait. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas facile en réalité parce que c'est très difficile. Moi, j'ai essayé d'écrire des chansons, c'est super difficile. Et en même temps, ça reste toujours... Il n'y a pas d'emphase, quoi. Ce n'est pas du tout emphatique. Ça reste toujours très, très simple. Et juste en plus, à la fois, elle a une voix très juste. Et les mots qu'elle emploie sont des mots justes aussi. Je pense que c'est pour ça que ses chansons sont aussi émouvantes, d'ailleurs.
Et c'est un peu une éternelle amoureuse qui attend son amoureux, qui souffre à cause de son amoureux. C'est souvent ça, les chansons de Françoise
Hardy. Oui, ce sont des chansons d'attente. Et d'ailleurs, Jean-Marie Perrier racontait que... elle se plaignait tout le temps lorsqu'elle était avec Jean-Marie Perrier de ne jamais le voir. Lui avait son métier, elle le sien. Mais lorsqu'ils se retrouvaient... lui aimait beaucoup sortir, donc finalement elle refusait de sortir avec lui, elle s'enfermait dans la salle de bain, elle composait des chansons. Et souvent, il a dit, souvent je la retrouvais à la même place en rentrant. Donc je pense que l'attente était son mode de fonctionnement.
Et je me souviens que quand je l'ai interviewée sur Europe 1, elle m'avait dit, moi je ne sors jamais. Effectivement, on l'écoute dans une chanson très célèbre, Des ronds dans l'eau.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Je voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau.
Françoise Hardy, évidemment, reconnaît hein, le côté tourmenté de ses chansons. On va l'écouter quand je l'ai interviewée sur Europe 1. La façon dont elle en parle m'avait beaucoup fait rire.
Si un extraterrestre n'avait que vos disques pour se renseigner sur les êtres humains, à votre avis, qu'est-ce qu'il penserait de nous?
Qu'on n'est pas très heureux.
C'est sûr.
Pas très épanoui, mais qu'en même temps, mais si vous n'aviez on a le dit... sens des belles choses.
Mais si vous n'aviez dit que ça, je pense qu'on vous écouterait moins. Il y a quelque chose derrière aussi de... Vous n'êtes pas que négatif dans vos disques.
Mais... Comment vous dire une chanson enfin j'ai peur de radoter mais une chanson c'est toujours et une musique c'est toujours la sublimation de quelque chose c'est un dépassement de quelque chose il y avait quelque chose d'assez banal qui arrive à tout le monde on arrive à faire quelque chose de beau c'est ça C'est ça, et alors là, je pourrais partir dans des discours de spiritualité, parce que moi je trouve que dans la belle musique, on se rapproche de Dieu, si vous voulez, on se rapproche du divin. Parce que la musique, pour moi, la belle musique, elle est d'essence divine, c'est comme ça que je la perçois. C'est presque certaines très grandes musiques classiques, comme par exemple le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, ou les concertos de Brahms pour piano et tout ça, vraiment, on a l'impression que ça vient d'ailleurs, quoi. Et on se connecte à une autre dimension.
Une dimension qu'on ne trouve pas toujours dans ses chansons, d'ailleurs, c'est cet humour qu'elle a, Françoise Hardy, elle est extrêmement drôle.
Alors oui, tous ses amis disent que dans la vie, elle est extrêmement drôle. Jean-Marie Perrier, par exemple, dit que jamais il n'a ri autant avec une autre personne qu'elle. Mais en fait, elle a fait des chansons assez drôles, comme les chansons que lui avait écrites Modiano, Étonné Bois Benoît. Mais on ne les aime pas tellement, ces chansons. En fait, ça ne lui va pas. Ça ne va pas son genre de beauté.
Oui, c'est ça. Et en France, on considère qu'une femme très belle ne doit pas être drôle. Alors que les Américains, par exemple, pour eux, ce n'est pas incompatible.
Non, ce n'est pas incompatible pourtant. Mais bon, elle, c'est vraiment son champ d'action, quoi. La mélancolie, la tristesse, le chagrin d'amour.
On fait une pause, Marie-Dominique Lelièvre. On se retrouve juste après avec, évidemment, Françoise Hardy.
C'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Marie-Dominique Lelièvre a publié une formidable biographie de Françoise Hardy intitulée « Françoise Hardy, étoile distante ». Et comme j'avais envie depuis longtemps de passer des chansons de Françoise Hardy dans cette émission, j'ai sauté sur l'occasion. Et l'on va parler évidemment de Jacques Dutronc, hein, puisque Jacques Dutronc et Françoise Hardy, pour les Français, sont indissociables. Et je vous propose d'écouter tout de suite la chanson qu'elle a écrite pour Jacques Dutronc. Il y en a peut-être d'autres, mais celle-là, elle est identifiée. Et par Jacques Dutronc en particulier, qui a toujours dit « Celle-là, elle est pour moi ». Elle s'intitule « Voilà ».
Voilà, je regarde les autres. Je ne leur trouve rien. C'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme ça. Es-tu content de tout? Je suis là devant toi, toujours la même. Oh pourquoi est-ce encore toi que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime? Tu
Alors avec Jacques Dutronc, ce n'est pas du tout le coup de foudre qu'on pourrait croire. Hein. Vous le racontez en détail dans votre livre, Marie-Dominique Lelièvre. En 1964, elle veut l'engager comme guitariste sur sa tournée. Il refuse, mais à l'époque, il sort de l'armée. Il a des grosses lunettes de myope et des boutons sur la figure. Il ne lui plaît pas du tout. Hein.
Non, et du reste, la chanson que nous venons d'entendre, voilà, je ne pense pas qu'elle ait été écrite pour Jacques Dutronc, parce que j'ai vérifié les dates. Oui, lui le pense, mais elle aurait peut-être pu l'écrire un peu plus tard pour lui. Mais d'abord, elle est sortie en 1965. 67, et en 67, leur relation était très bonne encore. Mais non, elle l'a, à mon sens, écrite pour un acteur anglais dont elle a été extrêmement éprise. Elle a une vraie passion qui a duré une année et qui s'appelait Peter McHenry. Et dont elle était éprise quand elle a commencé à revoir un peu Dutronc et Jacques Wolfson. En fait, ils étaient trois hommes en peine, l'un sortant d'un divorce, l'autre ayant plaqué sa fiancée et elle étant plaquée. Et ils sortaient ensemble pour se distraire. Mais Dutronc ne l'intéressait vraiment pas du tout. Mais il commençait un peu à changer, parce que c'est vrai qu'il était laid. J'ai vu des photos, ça paraît fou de dire que Dutronc a pu être pas très beau, mais si, il y a des photos où on voit vraiment qu'il était disgracieux. Et il s'est transformé, il a commencé à avoir beaucoup de succès avec ses propres chansons, c'était en 66 je crois. Oui, il est une des stars de 66 avec Paul Naref. Et ils sortaient ensemble, bref, il embellit la célébrité, ça embellit les gens.
Et puis c'est Jacques Wolfson,
qui
les a lancés tous les deux, qui va en faire un couple en fait.
Mais bien sûr, en fait, ils sont en couple avant d'être en couple, et même avant de savoir qu'ils pourraient être en couple. C'est-à-dire que Wolfson et le service de presse de Vogue commencent à faire monter des sujets, les journaux font des photos, on les voit ensemble, ils préparent même des cocktails dans Marie-Claire, on les voit dans un bar qui pourrait être chez eux, ils préparent des cocktails. La maison de disques décide d'en faire un couple, la presse d'ailleurs publie aussi des sujets, mais en fait il ne se passe encore rien entre eux, puis bon, petit à petit ça va se faire.
On va les écouter chanter ensemble, puisque vous partez en voyage, c'est en 2000.
Il la remercie de m'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
C'est vraiment un couple merveilleux, je trouve. Et en même temps, un drôle de couple. Parce qu'au fond, vous le racontez dans votre livre, Marie-Dominique Lelièvre, ils ne vivront presque jamais ensemble. Ils sont séparés depuis longtemps. Mais la France leur a refusé le divorce. En ce moment, Jacques Dutronc est avec Thomas Dutronc en tournée. Tous les soirs sur scène, ils rendent hommage à Françoise Hardy. Et j'imagine que tous les gens qui sont là pensent qu'ils sont toujours ensemble. Ils ne peuvent pas ne pas être ensemble.
De toute façon, quelle que soit la réalité de ce couple, il sera toujours dans l'imaginaire collectif le couple qui a duré. Ce qui m'a vraiment étonnée quand j'ai fait cette enquête, c'est de découvrir que, par exemple, les 7 premières années de leur union, avant la naissance de leur fils, ils ne vivaient pas du tout ensemble. Ils se voyaient une fois par mois. Et ça, c'est elle qui le dit. C'est quand même complètement fou. Enfin, et puis après, elle a cet enfant. Et sa mère, parce que là, moi je crois une chose, c'est que l'homme de la vie de Françoise Hardy, c'est sa mère. Et sa mère lui dit, mais quand même maintenant, peut-être que tu devrais vivre avec lui. Donc elle a dit à Jacques Dutronc, il faudrait qu'on vive ensemble et tout, on pourrait acheter une maison. Et il lui a répondu, mais je ne peux pas laisser ma mère. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu aurais dit toi si ta mère t'avait expliqué qu'elle n'avait pas pu quitter ta grand-mère? Et donc il a accepté de vivre avec elle. Ils ont acheté la fameuse maison de la rue Allée.
Quand je l'ai interviewé, Françoise Hardy, je lui ai parlé de la célébrité, parce que forcément, quelqu'un qui à la fois aime si peu la célébrité, qui a été si célèbre, si jeune, et qui l'est toujours autant, je me demandais ce que ça pouvait faire.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges à partir du moment où vous faites un métier qui est public, disons les choses comme elles sont. Et il y a vraiment, on a tendance à se retrouver dans, enfin, c'est pas qu'on a tendance soi, mais que la situation fait que vous êtes dans une bulle où la plupart des gens autour de vous sont bien intentionnés, mais quand même vous entretiennent cette bulle en ne vous disant pas les choses telles qu'elles sont, pour simplement par gentillesse, par affection ou pour ne pas vous décourager et vous amener à faire certaines choses. Et donc on est quand même dans une bulle un petit peu d'irréalité.
Alors cette bulle, vous y êtes entré, vous aviez 17, 18 ans.
Oui, puis en plus,
Sorti.
Et en plus, je sortais d'une autre bulle, puisque moi, j'ai vécu entre ma mère et ma sœur en vase très, 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 très clos, très fermé, vraiment. Mais
Vous ne connaissez pas le monde, vous ne connaissez pas la vie, si on vous écoute.
Je ne connais rien. Je suis une enfant.
Non, c'est vrai. C'est l'impression que vous avez ?
Oui et non, oui et non. Oui, non, mais il y a un petit peu de ça. Je veux dire, surtout dans une activité, je ne sais pas pour François Rollin, mais l'activité de la chanson, c'est quand même encore une fois très très bizarre de faire ça toute sa vie. On est centré sur ses propres états d'âme, sur ses émotions, sur son nombril d'une certaine manière.
C'était le générique de Regarde les hommes changer, l'émission que j'animais à l'époque qu'on entendait derrière. C'était la fin de l'interview. C'est vrai que, comme elle le reconnaît, elle est centrée sur son nombril en tant qu'auteur des paroles de ses chansons. Et en même temps, je crois que c'est Jean-Marie Perrier qui disait à chaque fois qu'elle était malheureuse, elle a fait une belle chanson.
Ben oui, en fait, c'est pour ça que je pense que les chagrins d'amour, elle les a peut-être un peu cultivés parce que c'était la source de son inspiration. Mais c'est une vie d'enfermement quand même, c'est ça qui frappait. Et lorsque j'avais visité la maison de la rue Allée, c'est ça qui m'avait frappé aussi, parce que lors de mon premier entretien avec elle, je lui avais demandé ce qu'elle faisait de ses journées. Elle m'avait dit bah, « je suis ici, chez moi, je vis au-dessus, dans ma chambre, je fais mes chroniques d'astrologie et puis j'écris mes chansons ». Et lorsque j'ai visité la maison et que l'agent immobilier a ouvert la porte de la chambre, c'était une cellule de moine. Il y avait une petite table à gauche du lit qui avec un ordinateur, à droite du lit un autre truc avec un petit appareil pour écouter de la musique, une salle de bain avec des produits qui était non pas digne d'une star, mais d'une bénédictine. Et visiblement, elle y passait réellement sa vie. Et lorsque je l'ai vue la dernière fois dans sa maison actuelle, enfin dans son appartement actuel, je sentais que c'était aussi la même chose. Il y avait une petite alcôve avec l'ordinateur allumé et tout. Je pense qu'elle doit y passer une grande partie de son temps. Ça, c'est des choix. Elle vous le dit aussi, que c'est la célébrité. Mais ça, je ne crois pas, parce que j'ai déjà croisé, même dans le métro, des gens ultra célèbres que personne ne regardait parce qu'ils n'étaient pas déguisés avec leur habit de star, quoi. Donc on peut passer inaperçu.
Et je pense qu'effectivement, elle ne s'habille pas en star tous les jours.
Non.
On va terminer cette émission avec une de ses plus jolies chansons, je trouve. Ça s'intitule « Tant de belles choses ». Voilà, Françoise Hardy.
Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne t'effera jamais. Même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi.
Voilà, ainsi se termine cette émission consacrée au génie de Françoise Hardy. Si par chance elle nous a écoutés, qu'elle sache qu'on l'embrasse. Et Marie-Dominique Lelièvre, votre livre s'intitule Françoise Hardy, Étoile distante. Il vient de paraître aux éditions Flammarion.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, vous allez retrouver Laurent Mariotte pour la table du dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé.